Tous les jours à 12h15 et 19h15,
Je vous dis pas,
votre magazine d'information locale.
Réunion d'échange sur la transition énergétique et le programme Lieu 2030 ce jeudi 9 avril à 20h30 au pôle économique sur l'Île-Dieu. Bonjour Samuel Le Goff.
Bonjour.
Tu es chargé de mission transition énergétique et Lieu 2030 à la mairie de Lieu, c'est bien ça?
Voilà, c'est ça.
Bonjour Michel Charbeau.
Salut Roland.
Tu es deuxième adjoint en charge du développement économique à la mairie de Lieu.
Comme toujours.
Peux-tu nous présenter Samuel Le Goff?
Oui, avec plaisir. Donc Samuel a pris ses fonctions au mois de novembre. En fait, il a succédé à quelqu'un que beaucoup d'y les connaissaient, qui était Marie Brossier, qui nous a quittés au mois d'août. Voilà. Et donc Samuel est donc arrivé avec déjà une première expérience dans les domaines justement du développement durable. Il est d'origine, comme son nom indique, il est breton, donc d'origine. Ce qui, pour l'Île-Dieu, n'est pas quelque chose de très rare, mais plutôt assez habituel. Et donc, il connaît bien, en fait, les milieux marins, les milieux littoraux. Et la mission qu'on lui a donnée, c'est d'inscrire l'action de la mairie de l'Île-Dieu dans les orientations actuelles qui sont prises au niveau européen, au niveau français, etc., qui est aider au passage à ce qu'on va appeler donc la mission transition énergétique, la mission énergétique, et faire que pour 2030, Lieu 2030, que pour 2030, l'Île-Dieu ait avancé dans ce domaine-là, qui est un élément très fort de stratégie de développement de l'Île-Dieu. C'est-à-dire qu'on veut que l'Île-Dieu continue son développement économique, mais le fasse en prenant en compte tout un ensemble d'opportunités que nous amène justement toute cette recherche du développement durable et cette recherche d'une meilleure manière de consommer et de produire de l'énergie sur l'Île-Dieu. Voilà.
Samuel, où as-tu travaillé avant de débarquer sur l'Île-Dieu et d'être dans le programme Lieu 2030 et transition énergétique?
Alors avant ça, moi je suis passé par la Champagne-Ardenne, juste avant ce poste-là, où en fait j'étais chargé de mission économie d'énergie au sein d'une chambre de métier de l'artisanat. Donc je travaillais auprès des artisans pour voilà, les inciter à faire des économies d'énergie, voir comment est-ce qu'ils pouvaient faire pour faire un maximum de choix pour essayer d'approcher les énergies renouvelables ou des choses comme ça. Donc, c'est déjà une mission que j'ai faite au sein des artisans, donc en Champagne-Ardenne. Et puis avant ça, moi, je suis parti un petit peu à l'étranger. J'ai fait mon bagage en Angleterre, notamment.
Et puis, tu faisais quoi en Angleterre? Alors, toujours dans les énergies renouvelables?
En Angleterre, en fait, j'ai travaillé sur l'énergie pour un magasin de fabrication de glace artisanale. Je suis quelqu'un d'assez gourmand. Mmh. Et puis, voilà, moi, j'aime bien l'artisanat. Donc, j'ai travaillé au sein d'une glacerie anglaise qui est maintenant très connue. Et on avait un programme énergétique assez ambitieux et environnemental également, puisqu'on devait diminuer la consommation de déchets, diminuer la consommation d'énergie, etc. Donc, au sein d'une entreprise comme ça, en Angleterre. Et puis, avant ça, j'ai eu un parcours au sein d'associations pédagogiques à Nantes, par exemple, sur de la sensibilisation au développement durable. Voilà, des choses comme ça.
Samuel, on peut rappeler, qu'est-ce que la transition énergétique?
Eh ben c'est une bonne question. Michel l'a rappelé d'ailleurs un petit peu tout à l'heure. Alors c'est vrai que
en aparté, oui.
Voilà, en aparté.
Ah non, même en plein micro.
En fait, la transition énergétique, c'est quoi? C'est comment changer en fait notre manière de consommer, puisqu'on sait qu'on consomme beaucoup de pétrole actuellement avec les voitures, on consomme beaucoup d'énergie avec la production nucléaire qu'on a en France, etc. Et l'idée, c'est comment, avec les directives, les consignes européennes, et puis on le voit dans la loi royale hein, maintenant qu'on en parle, on en parle beaucoup, hein, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte.
Si je peux me permettre, c'est un petit peu une usine à gaz, non?
Alors, pas forcément. En fait, de manière concrète, oui, comment est-ce que c'est sur l'Île-Dieu?
Tu fais plein usine à gaz pour la transition énergétique. Il fallait la faire.
Mais c'était le but. Hein. Et oui, Samuel, oui.
Donc voilà, on est dans un territoire voilà, qui consomme beaucoup d'énergie. Et l'idée, c'est comment avoir un territoire un peu plus vertueux en la matière. Donc, diminuer les consommations d'énergie et puis voir comment les substituer, les remplacer par d'autres sources énergétiques et qui soient le moins polluantes possible.
Les effets de serre, ça rentre aussi dans la transition énergétique, non ?
Pas du tout. Les gaz à effet de serre, ça rentre complètement là-dedans, puisque quand on a beaucoup de véhicules qui circulent, on a une pollution atmosphérique, on a un effet de serre qui est très très important. Et c'est suite à cette prise de conscience-là mondiale que c'est décliné à l'échelle européenne, à l'échelle française, voilà, des stratégies pour réduire les consommations d'énergie, réduire le gaz à effet de serre, et puis tout ce qui s'ensuit, puisque l'effet de gaz à effet de serre, ça nous impacte tous, c'est l'augmentation des niveaux de la mer, c'est le fait d'avoir des variations climatiques qui ne sont pas comme elles devraient être, donc on est tous impactés par ça. Des problèmes de respiration aussi, des choses comme ça.
Des allergies, etc.
Oui, tout à fait.
D'ailleurs, il faut rappeler que la France...
Michel, oui.
La France donc accueillera à Paris au mois de décembre une conférence mondiale sur le climat qui va être une réunion extrêmement importante, enfin je dirais dont une partie de l'avenir de l'humanité va dépendre un peu quoi, c'est-à-dire est-ce que l'ensemble des pays du monde vont réussir à se mettre d'accord sur un programme d'action pour éviter le pire. On sait que déjà en 2050 et au-delà, si on n'a pas réussi à diminuer de 2 degrés en fait, les risques de chaleur, alors l'avenir pour nos enfants et nos petits-enfants surtout sera loin d'être serein, quoi. Et à ce propos, simplement je signale que le 21 avril, si je ne me trompe pas, à Lille-Dieu, il y aura donc une conférence, mais je pense que Roland, tu en parleras.
On en parlera bientôt, oui.
Voilà, il y a donc une conférence avec deux des spécialistes du climat qui ont élaboré la fiche française, justement, qui sera négociée lors de cette conférence du climat. Feront donc une conférence, chose assez rare à Lille-Dieu, le 21 avril au casino à 21h30. Voilà.
Et c'est proposé par l'association Lieu Demain.
Alors c'est proposé, effectivement, c'est pas proposé par la mairie, mais la mairie collabore quand même à cette manifestation parce que ça a une telle importance qu'on pouvait pas ne pas soutenir cette initiative réalisée par Lieu Demain. Exact.
Samuel, comment le programme Lieu 2030 s'inscrit dans la transition énergétique ?
Alors, le programme Lieu 2030, donc ça, c'est le programme que pilotait Marie. En fait, c'était un choix ambitieux, un choix politique très, très ambitieux qui s'est montré dans ce programme-là. Dans ce programme Lieu 2030, il y avait deux choses. Il y avait à l'origine, en fait, le plan climat-énergie territorial. Donc, pour faire simple, en fait, hein, parce que je vois tout de suite les yeux qui se lèvent,
oui, on est bien d'accord.
En fait, voilà, donc ça, c'est comment agir concrètement au quotidien pour limiter les effets d'une surconsommation énergétique. Donc, c'est faire des économies d'énergie dans son bâtiment, c'est prendre le vélo au lieu de la voiture, enfin, voilà, des choses comme ça. Donc, ça, c'est soutenu par l'ADEME, qui est l'agence de maîtrise de l'énergie et l'agence de l'environnement. Donc ça, c'est soutenu par l'ADEME. Donc ça, c'est un des premiers axes du programme Lieu 2030. Et le deuxième, en fait, c'est la plateforme d'innovation, puisque la transition énergétique, c'est un bon sujet pour faire de l'innovation. Il y a tout un tas de nouvelles technologies qui sortent pour moins consommer, moins de pétrole, par exemple, basé sur d'autres sources d'énergie. Et donc ça, c'est le deuxième pilier du programme Lieu 2030. Et avec l'avènement du parc éolien, on a décidé d'englober tout ça dans un programme d'action qui s'appelle Transition énergétique Lieu 2030 pour bien montrer l'implication de ce programme-là dans la transition énergétique, puisque c'est quelque chose de global. Et à chaque fois, dans ces trois axes-là, on retrouve le thème de l'énergie et de la transition énergétique.
Michel, quelque chose à rajouter peut-être ?
Oui, pour prendre des exemples très précis, dans le plan climat-énergie territorial, donc territoire, par exemple, il y a des choses très, très, très simples qui ont été mises en œuvre à Lille-Dieu et qui participent à ce PCET, comme on dit. C'est, par exemple, la création du GR, du chemin de grande randonnée, et des 5 centres participent à ça. C'est-à-dire, c'est faire la promotion de manières de se déplacer qui soit justement, qui évite de prendre la bagnole, par exemple. C'est actuellement, nous sommes en train de travailler, et Samuel fait partie aussi d'un groupe de travail, pour étendre encore l'utilisation du vélo, donc d'avoir encore de nouveaux circuits de vélo sur Lille-Dieu. Et là, on va travailler mercredi prochain, enfin, nous allons travailler très prochainement avec les loueurs, par exemple, de vélos, pour étudier avec eux comment faire pour élargir justement cette capacité à utiliser le vélo sur les lieux. Il y a un stagiaire, par exemple, qui participe à ça. C'est aussi une manière simple, c'est promouvoir une agriculture qui soit une agriculture qui participe au développement durable, c'est-à-dire qui utilise le moins de pesticides possible, qui soit une agriculture paysanne, une agriculture bio, sur les lieux. Voilà. Il y a des tas d'éléments très concrets qui, en fait, sont issus de cette réflexion qu'on a eue sur comment faire pour éviter que le climat se dérègle et apporter notre pierre à l'idée. On pourrait comme ça donner des éléments extrêmement importants. Si on prend aussi la plateforme régionale d'innovation, nous avons une réunion prochainement sur l'idée de promouvoir la filière hydrogène sur l'idée. Filière hydrogène qui, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a un bateau de pêche qui va être construit à la demande du comité régional des pêches des Pays de la Loire, qui va entrer en construction très prochainement et qui utilisera l'hydrogène comme source donc, d'énergie. Et on aimerait justement que l'IE puisse accueillir aussi ce bateau qui s'appelle le Philippine. Voilà, c'est tout autant d'éléments très concrets, quoi. C'est vrai que la mission IE 2030, transition énergétique, ça paraît abstrait et ça est en partie abstraite, mais en fait, pour nous, nous voulons qu'il y ait des retombées très concrètes, très directes dans la vie de tous les gens et tous les jours à l'IDIO.
IE 2030, qu'est-ce que ça va apporter jusqu'en 2030?
Alors en fait,
pour l'IDIO.
Alors IE 2030, pourquoi? Puisque c'est dans une perspective de temps. On se donne un petit peu de temps pour faire des efforts en matière d'économie d'énergie, d'avoir des énergies renouvelables. Et peut-être qu'à terme, l'IDIO, ce serait bien d'ailleurs qu'elle arrive à être autonome en production d'énergie et qu'elle puisse produire. Et puisque, en tout cas, l'idée, ce serait qu'elle puisse consommer tout ce qu'elle puisse produire.
Donc, et ça, c'est possible pour l'IDIO?
Alors ça, c'est tout à fait envisageable.
Hein. C'est tout à fait envisageable et c'est bien l'un des objectifs que l'on se donne.
Donc, voilà. Vraiment autonome.
C'est un objectif, oui. On va dire, à long terme. Est-ce que ça va être 2050? Est-ce que ça va être plus ou moins tard que ça? IE 2030, en fait, on est à moyen terme, on va être entre les deux à ce niveau-là, et entre-temps, on a moyen d'avoir des retombées vraiment très concrètes pour aller dans cette direction-là. Par exemple, Michel parlait tout à l'heure de la mobilité, de l'agriculture, mais il y a aussi le bâtiment. Le bâtiment est très, très énergivore, il consomme beaucoup d'énergie pour se chauffer, par exemple. Donc, si on est dans une maison qui n'est pas du tout isolée, on va consommer énormément d'électricité si on a un chauffage électrique, du bois si on est au bois, etc. Et l'idée, ça va être déjà de voir comment est-ce qu'on pourra isoler au mieux sa maison pour diminuer un maximum ses consommations d'énergie-là.
Plutôt les anciens logements.
Alors, on est dans de la rénovation de l'ancien.
Exactement, oui. C'est pour l'instant, il est sûr qu'on a pris conscience à l'IDIO depuis quelques années que nos maisons traditionnelles, moi j'en ai une, étaient en fait des véritables passoires en termes énergétiques. Et on a vu...
Par exemple, les fenêtres en bois, c'est complètement une passoire, ça, non?
Non, le bois est plutôt bon, mais non, le bois est un très bon isolant.
Simple vitrage,
si vous voulez pas. Voilà, un simple vitrage.
Non, d'accord,
oui,
ok.
Oui. Et puis, alors, surtout, ce qui est vraiment. Il y a des choses qui sont terribles pour nos maisons en termes énergétiques, c'est que nos toitures étaient autrefois faites simplement d'un plancher sur lequel on mettait des tuiles. C'était ça le système. Alors là, il n'y avait aucune isolation. Et tu as pu voir, Roland, comme tous les îlets, combien depuis 2 à 3 ans, le nombre de toitures qui ont été rénovées et où, justement, on met maintenant des isolations entre le plancher et la tuile. Quoi.
Par exemple, de la laine de verre.
Alors,
c'est un exemple.
Hein. Là, c'est pas là, non. Parce que si tu mets de la laine de verre entre le plancher et la tuile, elle se gorge d'eau. Non. Et tu mets à ce moment-là des isolants à base de. C'est le polyuréthane, un produit très isolant que tu mets en couche de 8, de 10, de 15, que maintenant on augmente au fur et à mesure. Et par contre, sous le plancher, effectivement, là, on met souvent un faux plafond avec de la laine de verre ou la laine de roche ou bien avec de la ouate de cellulose ou avec d'autres systèmes d'isolation. Ça peut être de la fibre de bois, etc. etc.
L'ART 2012, pour les lieux, c'est vraiment une bonne idée.
Ah bah c'est en fait la RT 2012, on est vraiment sur de la construction neuve et c'est vraiment dans cette dynamique-là. C'est comment faire une construction intelligente dès le début pour qu'on ait un budget de fonctionnement, c'est-à-dire que ce que ça va coûter dans l'utilisation de cette maison, par le chauffage par exemple, qui puisse être le moins coûteux possible. Donc c'est à la base comment on va peut-être investir un petit peu plus dans une construction neuve pour que finalement on puisse être gagnant assez rapidement en fait sur une construction de ce type-là. C'est-à-dire qu'on va avoir une maison bien isolée, bien étanche, qui va avoir le moins possible de déperdition énergétique. Et à ce moment-là, ça va avoir un coût très très faible sur le budget.
Donc Est-ce que le programme Lieu 2030 pense à rénover les anciens bâtiments de l'Île-Dieu, que ce soit communaux ou personnels?
Ben non, en ce qui concerne les bâtiments personnels, la commune ne peut pas intervenir, sauf en termes de conseil. Et à ce titre-là...
Peut-être d'aide, non? C'est pas
d'aide, en programme, non? Alors, à ce titre-là, donc l'Île-Dieu participe à un syndicat mixte qui s'appelle Vendée des Îles, c'est-à-dire qui réunit l'ensemble du nord-ouest de la Vendée. Et nous avons donc proposé à l'Union européenne, par l'intermédiaire du Conseil régional, un programme européen qui s'appelle le programme LEADER, qui doit démarrer là prochainement. Pour l'instant, nous n'avons pas encore eu de retour, mais on sait qu'il est plutôt bien perçu. Et nous avons axé très fortement ce programme LEADER pour le Nord-Ouest Vendée, donc ça concerne aussi donc les deux, sur entre autres l'aide qu'on pourrait apporter financièrement aux entreprises qui veulent démarrer des bilans énergétiques, qui veulent mettre en place des moyens justement pour lutter contre la précarité énergétique. Donc ça, oui, par exemple, c'est un mode d'aide qu'on veut absolument apporter en la matière. Donc oui, il y aura des aides par l'intermédiaire du programme européen non LEADER.
Samuel, quelque chose à rajouter peut-être?
Par rapport aux bâtiments communaux, on a un programme d'action où déjà au niveau de la commune, on fait un suivi des consommations énergétiques de tous les bâtiments communaux. Donc on essaye de voir si année après année, on fait déjà si on arrive à s'améliorer en termes d'économie d'énergie. Après, effectivement, on a un programme de rénovation des bâtiments. Donc quand on a un projet de rénovation, on essaye, autant que faire se peut, d'être le plus vertueux possible en la matière.
Bah, ça va être par exemple le cas avec la reconstruction du centre technique non municipal, puisque hélas, le centre technique municipal a brûlé. Et donc maintenant, il faut forcément qu'on en reconstruise un neuf, donc ce qui va être fait dans la zone de la Marèche. Et aussitôt, donc, le maire de Lidieu et le bureau municipal a pensé qu'il serait intelligent sur la toiture du centre technique municipal, sur la partie toiture qui est orientée vers le soleil, hein, donc sud, sud-ouest, ouest, de pouvoir implanter des panneaux solaires, quoi. Sachant qu'en la matière, à ce moment-là, nous serions aidés, y compris financièrement, par le CIDEV et par des financements régionaux.
Et jusqu'à 2030, quelles nouveautés pourrons-nous découvrir sur l'île-Dieu, s'il y a des nouveautés à avoir ou à venir, Samuel ou Michel?
Alors, qu'est-ce que tu appelles des nouveautés? Les nouveautés, la principale...
Point de vue électrique, point de vue véhicule électrique, point de vue vélo électrique, alors, point de vue autre chose, vraiment, alors, concret.
Alors, la principale nouveauté quand même qu'on va avoir, c'est quand même le parc éolien offshore, quoi. Ça, c'est bien sûr, parce que ça a quand même créé, on a souvent parlé ici, pas mal d'emplois, mais ça va en fait générer... Je vais donner un exemple tout simple et qui va dans le sens aussi de la question que tu posais tout à l'heure vers une plus grande autonomie énergétique. On est en réflexion avec eux et on va les rencontrer, par exemple, pour que lors de la production de ce parc éolien, qui sera une production énorme pour nous quand même, hein, au moment où le parc éolien produira, où il n'y aura pas besoin de cette énergie pour le réseau national, ce qui arrivera, de pouvoir utiliser cette énergie sur l'île-Dieu, par exemple, pour produire de l'hydrogène. Et ce qui veut dire que cet hydrogène, à ce moment-là, sera produit à un coût très intéressant, parce que pour produire de l'hydrogène, il faut beaucoup d'énergie. Et donc, si on a une énergie peu chère à ce moment-là, on pourrait à ce moment-là produire de l'hydrogène qui pourrait servir, par exemple, pour des véhicules à Lisieux, pour nos autocars, nos futurs bus, idbus à Lisieux, pour éventuellement des bateaux, s'il y en avait, etc. Et donc là, par exemple, ça, c'est quelque chose qui serait une innovation énorme, puisqu'on serait dans les premiers à produire ce genre de choses. Un coût intéressant et qui serait un coût pour Lisieux, et donc un gain plutôt pour Lisieux, tu vois. En ce qui concerne les véhicules électriques, actuellement, on est à peu près à 70 véhicules électriques sur Lisieux.
C'est pas énorme.
C'est énorme. C'est énorme.
Samuel n'est pas d'accord.
Ah oui, c'est énorme.
Tu vas nous donner ton point de vue tout à l'heure.
Eh bien, il va nous donner. C'est énorme parce qu'on est certainement l'une des communes de France qui, par rapport à la population, avons le plus fort taux de véhicules électriques. Tu es d'accord avec moi,
Bah oui, je ne vais pas te contredire. Non, mais c'est vrai que par rapport à la densité, par rapport au nombre de populations sur Lisieux, c'est vrai que c'est absolument très important. Et d'ailleurs, à ce titre, on a reçu un prix. Hein, la commune de Lisieux a reçu le prix du territoire électromobile. Donc, ce qui montre bien qu'en fait, voilà, on a su développer une offre électrique, des bornes de recharge, puisque s'il n'y a pas de bornes, ça ne sert à rien d'avoir des véhicules électriques. Donc voilà, il y a une demande et il y a une offre en même temps qui sont vraiment très complémentaires sur Lisieux, ce qui montre voilà, son bon développement. Et je pense que ça continue bien, c'est quelque chose qui se...
Ça va s'accélérer sur Lisieux ou pas?
Ah oui, ça, c'est quelque chose qui continue. Simplement, la limite que nous avons, c'est que pour acheter un véhicule, il faut, que ce soit un véhicule thermique ou un véhicule électrique d'ailleurs, il faut toujours vérifier qu'il y a la capacité sur un territoire de pouvoir l'entretenir, de le maintenir. Or, nous avons nous avons actuellement au niveau électrique deux grandes marques en fait hein, qui nous permettent d'entretenir. C'est d'une part Renault et d'autre part Peugeot et Citroën. Donc, on est tenu pour l'instant pour les véhicules. Pourquoi ? Mais parce que un véhicule, c'est avant tout maintenant un maintien qui se fait avec des outils. Informatique. Hein. Ils mettent en place une espèce d'ordinateur et tout se fait par ordinateur pour vérifier le bon état dans des machines. C'est vrai aussi, encore plus pour les véhicules donc électriques. Et actuellement, donc, on a la possibilité de le faire pour les véhicules Peugeot Citroën avec les Ion d'une part et les C0 d'autre part. Et puis avec Renault, avec les Zoé.
Oui.
Hein, et puis l'autre petit véhicule.
Donc, une sorte de Kangoo, non?
Alors, Kangoo le font aussi, tout à fait. Tous les véhicules Renault, les Kangoo et les électriques le font aussi. Et donc, on est pour l'instant tenu par ça, alors que toutes les marques automobiles actuellement qui existent en France et dans le monde sont en train de développer de nouveaux véhicules électriques. C'est-à-dire que le développement va se faire à vitesse beaucoup plus forte que ça pouvait se faire autrement.
Donc mais Michel, si j'ai bien compris, pour Lisieux, vous m'avez acheté soit Renault, soit Peugeot pour...
Ou Citroën.
Ou Citroën pour recharger son véhicule.
Bah,
par les bornes publiques.
Bah, non seulement par les bornes, mais c'est surtout... Non, c'est pas uniquement une histoire de bornes. C'est une histoire de faire entretenir son véhicule ou quand il y a une panne par les garagistes. Parce que les bornes, ça va là pour tout le monde. Ça va là pour n'importe quelle marque. Voilà.
Samuel, quelque chose à rajouter peut-être par rapport aux véhicules électriques, que ce soit véhicule, voiture ou vélo?
Eh bien, en fait, oui. Alors, sur les véhicules électriques, ça va aller de l'avant parce qu'on a maintenant des primes d'État où on a le ministère de l'écologie qui encourage la vente de ces véhicules électriques-là.
Donc, d'ailleurs, sur Lisieux, il n'y a pas de prime spécifique pour l'achat d'un véhicule ou d'un vélo électrique?
Je pense que la prime d'État est suffisamment généreuse pour...
Oui, je crois qu'on...
Michel.
Oui, non, mais là, il se trouve qu'avec la décision qui avait été prise par la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, de promouvoir les véhicules électriques, entre autres auprès de ceux qui avaient un véhicule
diesel de plus de 15 ans, on est bien d'accord, c'est mal.
Et à ce moment-là, il y avait une prime de 10 000 euros.
Ouais, c'est en cours actuellement.
Ah, c'est en cours. Et est-ce que tu sais, Roland...
Non, mais tu vas me le dire, je pense.
Oui, elle a dit que le premier propriétaire d'un véhicule de ce type-là qui allait acheter un véhicule électrique bénéficierait en plus d'un cadeau pour le premier qui serait un vélo assistance électrique. Et tu sais quel a été l'endroit, la commune où ce prix a été gagné.
Je dirais Lille-Dieu, non ?
Eh bien, c'est Lille-Dieu.
Ça va, c'est simple comme question. Hein.
C'est Lille-Dieu. Encore une fois. Donc, on truste les prix. Mais d'ailleurs, on a aussi été primé, Samuel, tu vas nous le dire, dans un autre domaine du développement durable.
Voilà, en fait, on a été lauréat territoire à énergie positive.
Et pour la croissance verte.
Pour la croissance verte, tout à fait. Il ne faut pas oublier ce petit bout de phrase-là qui montre bien son importance. En fait, voilà, on avait candidaté sur un appel à projet du ministère et il se trouve que notre projet de territoire, UE 2030 et la transition énergétique ont suffisamment été explicites, en tout cas, pour mériter d'être lauréat territoire à énergie positive. Donc, ça veut dire que là, on pousse l'ambition encore plus loin. C'est non seulement on devra à terme pouvoir être en mesure de consommer toutes nos productions, mais même produire au-delà. On devra être territoire à énergie positive, donc c'est-à-dire, voilà, tout à chacun, les maisons, on pourra faire plus d'énergie que ce qu'on consomme. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très ambitieux.
Et pour les vélos électriques, est-ce qu'il y a des aides spécifiques pour Lille-Dieu ? Parce que c'est important tout de même, le vélo électrique.
Non, non plus. Il n'y a pas d'aide spécifique. Non, il n'y a pas d'aide spécifique.
Quels moyens simples pouvons-nous mettre en place, nous, citoyens, pour être dans la transition énergétique, Samuel ou Michel ?
Eh ben, déjà, la première chose à faire, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est déjà au niveau de sa maison. Rénover sa maison. Déjà, être bien sûr qu'elle soit bien isolée, c'est la première chose à faire. C'est vraiment diminuer la consommation d'énergie de sa maison. Déjà, ça fait faire des économies sur la facture. Donc, au niveau du foyer, on est bien content. Et après, effectivement, on peut améliorer la performance, donc en changeant des matériels qui peuvent être plus énergivores. Donc, par exemple, des anciens frigos qui consomment beaucoup, on peut les changer pour mettre des plus récents, etc. Et après, cerise sur le gâteau, quand on a déjà fait tout ça, ça peut être passé à l'énergie renouvelable. Mais vraiment, le début, pour commencer ça, c'est vraiment faire de la rénovation énergétique. Et ça, tout le monde peut le faire.
Et en plus, il y a des aides pour tout ce qui est rénovation.
Oui, parce qu'il y a en fait, il y a une défiscalisation qui existe, donc avec un crédit d'impôt. Mais pour pouvoir le faire, encore faut-il que l'artisan qui réalise ces travaux soit bénéficiaire d'un label qui est le label RGE, dont Samuel va nous parler.
Donc RGE, c'est le label reconnu garant de l'environnement, qui permet de reconnaître une qualification aux artisans, en fait, qui se sont formés sur cette thématique-là, et du coup, qui ont toutes les compétences pour faire des travaux d'économie d'énergie. Donc en fait, ces aides d'État, vont pouvoir être attribuées aux clients si et seulement si l'artisan est reconnu garant de l'environnement. Donc c'est très important pour ces corps de métier-là de se pencher sur cette question, d'aller se former et de voir comment est-ce qu'on peut devenir RGE.
Les artisans sont formés sur les lieux à la RGE ?
Alors, ce qui est quand même dommage, c'est que nous avions fait il y a 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus, toute une formation, tu te rappelles Roland, il y avait plus d'une trentaine d'artisans qui se sont formés, donc, et c'était tout à fait dans cette même ligne, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas forcément allés jusqu'au bout, jusqu'à la labellisation.
Pourquoi ils n'ont pas été jusqu'au bout ?
Bah parce que c'est...
Ça reste un point d'interrogation.
Oui, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ça, je ne sais pas. Alors qu'ils avaient toutes capacités pour pouvoir le faire, et donc, alors, il y a un risque énorme quand même, un risque énorme sur un plan économique. C'est qu'à partir du moment où ils ne sont pas labellisés, eh bien, les clients qui vont vouloir faire des travaux sur leur maison pour pouvoir gagner en énergie, etc., risquent de faire appel à la concurrence et à la concurrence qui va venir d'en face.
Du continent.
Eh bien oui.
Mmh. Est-ce que c'est logique ?
Bah, c'est logique, oui. Nous allons promouvoir... Et ça, c'est une réunion qui va être faite avec la CAPEB. Je me souviens plus de la date. De petit déjeuner.
C'est le dernier vendredi de mai. Je crois que c'est le 29 mai, quelque chose comme ça.
29 mai, donc l'ensemble des artisans du bâtiment de Lille-Dieu sont conviés à un petit déjeuner qui est co-organisé d'une part par la mission développement économique, donc Vincent Girard, et d'autre part par la mission transition énergétique de 2030, donc Samuel Le Goff. Donc avec ma participation bien évidemment, et avec la CAPEB. Et donc la CAPEB va venir pour informer l'ensemble des artisans de cette nécessité absolue d'être labellisé RGE. Et donc, on mettra en place le plus rapidement possible des formations. Ce sont des formations qui ne sont pas très importantes. Et surtout pour ceux qui avaient déjà participé à une formation avec la CAPEB il y a 4 ou 5 ans, ils ont déjà des tas d'éléments de base qu'ils connaissent, qu'ils savent, quoi. Mais il faut qu'ils aient ce sacré label, quoi. Voilà.
Et ça, le label RGE, on l'appelle.
Je dis vraiment pour les artisans, je sais que les artisans nous écoutent, puisque Neptune FM est très écouté par les artisans du bâtiment. Venez à ce petit déjeuner. En plus, on va prendre un café ensemble et ce sera sympathique. Mais économiquement, c'est essentiel que vous veniez si vous ne voulez pas vous faire piquer des marchés par des artisans d'en face, du continent. Et ça participera justement à cette recherche d'économie sur les lieux et pour vous, artisans, à cette recherche de moyens financiers complémentaires.
Samuel, où avoir plus d'informations sur les aides ?
Alors, voilà.
J'allais y venir. Bah, très bien.
J'allais y venir. Je voulais demander la parole justement pour ça, parce que ça me semble très important au niveau des aides financières, parce qu'il en existe beaucoup. Il en existe suivant les cas de situation, suivant les projets qu'on va faire, suivant les sources de revenus. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué pour s'y retrouver. Donc, voilà. Moi, je voulais vous donner un moyen simple pour pouvoir s'y retrouver un petit peu là-dedans. Il existe, en fait, dans tous les départements, un point info énergie, en fait. Et donc, pour la Vendée, en fait, je vais vous donner le numéro de téléphone. Si jamais il y a des personnes, des particuliers, qui sont intéressés pour faire des projets de rénovation, l'avantage de cette association-là, donc c'est l'espace info énergie de Vendée, permet de donner des conseils gratuits et indépendants. Et ça, c'est très important.
Ils sont déjà venus sur les lieux, d'ailleurs.
Oui.
Voilà, ils sont déjà venus. Ils vont revenir pour faire des permanences. Donc, leur numéro de téléphone pour avoir des conseils sur la rénovation énergétique, pour savoir où commencer et puis quelles aides on peut bénéficier, c'est le 02 51 08 82 et 27.
Tu peux le répéter, s'il te plaît ?
Donc 02 51 08 82 27.
Ils ont aussi un site internet, forcément.
Et ils ont aussi un site internet, tout à fait.
Samuel, merci de toutes ces informations. À très bientôt sur l'antenne de Neptune FM.
Ben, je t'en prie, au plaisir.
Michel, à très bientôt.
Salut Roland.
Et on vous rappelle que la réunion d'échange sur la transition énergétique et le programme UE 2030 a lieu ce jeudi à 20h30 au pôle économique sur les lieux. Merci beaucoup à vous deux, à très bientôt.
Salut Roland.
Merci.
On se retrouve dès demain dans Je vous dis pas, on vous présentera un cycle d'ateliers La santé dans l'assiette en compagnie d'Agnès Bossis, la diététicienne, et Solène Garraud du CLIC, le centre local d'information et de coordination sur les lieux. À demain, au revoir.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.